Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission En revenant de l'Expo. Donc maintenant vous avez quand même une grande habitude de cette émission, en tout cas pour les auditeurs fidèles. Eh bien vous connaissez sûrement l'histoire de Cadet Roussel qui avait trois maisons. Ben, figurez-vous que moi j'ai rencontré quelqu'un qui a trois maisons et trois ateliers. Et quand on dit atelier, eh bien on dit recherche, travail et production. Merci à Yann qui va assurer l'enregistrement de cette émission. Et bonjour à vous Gilles, l'heureux, entre guillemets, propriétaire de trois maisons et de trois ateliers.
Bonjour.
Alors Gilles s'appelle en fait Gilles Balmé. Hein. Il est artiste plasticien et il va passer donc une heure avec nous aujourd'hui. Et on va essayer de décortiquer, d'aller gratter sur tout ce qui a fait qu'il est devenu artiste, qu'il enseigne et qu'il est aujourd'hui un artiste reconnu, qui se partage hein, entre différents lieux. Donc il y a un travail professionnel autour évidemment de son travail plastique, de ses recherches, mais aussi un travail professionnel pour trouver sa place dans le monde de l'art et puis enseigner. Gilles, on va commencer par le début. Vous n'êtes pas Montpelliérain, j'allais dire pas du tout, maintenant un petit peu quand même, mais l'histoire commence à Grenoble.
Oui, alors je suis né donc à La Tronche, en banlieue grenobloise.
C'est pas La Tronche en mer. Hein.
Non, c'est une banlieue. En fait, il y a l'hôpital de Grenoble principal qui est là-bas, donc beaucoup de Grenoblois sont nés à La Tronche en fait. Et d'accord. J'ai toujours vécu dans le centre-ville de Grenoble, Courbériard. Mes parents avaient un appartement et la chance d'avoir un atelier qui est un reste de mon arrière-grand-père qui était donc maître verrier, donc il faisait les vitraux des églises et qui en 1924 a fait construire ce bâtiment et donc
qui est un grand bâtiment.
Oui, c'est un grand bâtiment avec des grandes verrières. Alors c'est un peu le rêve de tout artiste, hein, mais alors moi je travaille dans la toiture et puis j'ai quelques autres niveaux
sous la toiture
et donc c'est vrai qu'il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, c'est des conditions un peu parfois difficiles de l'artiste, hein, mais j'aime des fois bien parler du côté un peu je vais à la mine, je vais au charbon,
hein, c'est ça
un peu sortir de la noirceur de cet espace, des choses des fois lumineuses ou colorées, voilà.
Et c'était l'atelier de votre
arrière-grand-père. Et donc il a fait des vitraux toute sa vie dans le civil, des vitraux décoratifs, des choses à renouveler, Art déco, des choses religieuses aussi, beaucoup de vitraux donc pour les églises en Isère, en Savoie, mais aussi dans le monde entier, au Brésil, en Inde, au Vietnam. Enfin, des gens m'envoient régulièrement des mails, des fois pour me dire ah, c'est vous, vous êtes de votre famille, parce que j'avais fait un site sur mon arrière-grand-père il y a quelques années qui recensait un petit peu les vitraux, et puis il y avait eu un catalogue d'une vente aux enchères de maquettes de vitraux. À un moment, la famille a dû se séparer de cet ensemble, et donc voilà, ça a généré une forme finalement de catalogage de ces productions. Donc c'est toujours intéressant de savoir où est telle pièce, est-ce que les vitraux sont encore là, est-ce qu'ils ont été détruits pendant les guerres, il y a eu aussi ça, beaucoup de destruction, beaucoup de restauration aussi, et donc voilà, des gens des fois me contactent curieusement.
Alors on se demande d'ailleurs, c'est étonnant, hein, c'est un artisan d'art.
Oui, artisanat d'art, oui.
C'est un standard. Et vous nous parlez de vitraux qui sont partis partout dans le monde, oui. Depuis Grenoble.
Oui, c'est mystérieux.
Mais est-ce que ça raconte une partie de l'histoire de l'artisanat d'art français et de la capacité des Français de produire des choses un peu exceptionnelles?
Alors, il y a aussi le talent de mon arrière-grand-père, je pense, qui a été reconnu assez tôt, hein, parce que j'ai retrouvé récemment, pour vous dire, un article étonnant du conservateur du musée de Grenoble, extrêmement réputé, Andry Farcy, puisqu'il a fait l'acquisition des premiers Picasso, Matisse, enfin des choses absolument incroyables au musée, et qui a fait un article dithyrambique sur les vitraux de mon arrière-grand-père à l'église Saint-Louis de Grenoble, et dans des petites gazettes grenobloises, comme ça, à l'époque. Donc c'était, et mon grand-père a pris la suite. Donc il a travaillé toute sa vie avec son père, sans signer de vitraux, ou quelques-uns vers la fin de sa vie.
Ça sortait de l'atelier.
Voilà. Et mon arrière-grand-père est mort en 57, mon grand-père a pris la suite, jusque dans les années 70, où là, mon père lui-même a commencé dans le vitrail, mais est passé par la chaussure, curieusement. Donc il sait faire une chaussure de A à Z, il a travaillé dans des usines en Allemagne, il y a un oncle qui l'avait un peu formé à cette idée, peut-être de la chaussure, et finalement il est revenu au vitrail, et puis le vitrail, c'est difficile, quoi. Dans les années 70, les architectes faisaient moins appel aux maîtres verriers, des commandes privées se tarissent un petit peu. Et donc, il a eu l'idée de muter vers l'encadrement de tableaux. Mmh. Et donc, l'encadrement de tableaux, moi, j'ai grandi dans la boutique d'encadrement, avoir les clients qui arrivaient depuis la rue, qui connaissaient l'encadreur, les œuvres avec. Et donc, c'était vraiment une richesse d'être confronté à ces esthétiques très différentes entre le poster, la toile de maître, le canevas que mon père tendait sur des châssis, voir les gestes du vitrail, parce qu'il continuait en même temps à produire du vitrail. Bah, quand un client lui demandait un vitrail géométrique simple, parce que lui, il n'avait pas la formation de peintre maître verrier, qui sait peindre un visage, qui sait... Voilà. Donc lui, il faisait des vitraux géométriques, des losanges, des choses très décoratives, mais tout à fait remarquables. Et donc, il sait faire aussi ça. Et après, donc il a fait 30 ans, 40 ans d'encadrement, plusieurs milliers d'encadrements. Et donc, c'est assez rigolo d'avoir... Il notait méticuleusement tous les petits sur des petits carnets ce qui lui avait été confié. Voilà, donc c'est assez
Et vous
amusant.
Avez ces petits carnets ?
Oui, on a tout ça. Oui. Ça n'a pas bougé. L'atelier, en fait, il est parti. Voilà, il est toujours vivant, mon père. Et donc, c'est vrai qu'il est très conservateur. Donc, on n'a pas bougé du tout.
Donc, il y a un historique, pratiquement, de la fibre artistique de cette famille.
Oui, alors, est-ce que c'est. Alors, curieusement, je crois qu'on pourrait dire qu'il n'appréciait pas forcément. En tout cas, il ne s'intéressait pas à ce qu'il encadrait. Mais. Il m'a confronté, mine de rien, à des choses très diverses. Et c'est moi qui étais curieux pour lui. Donc, j'allais, par exemple, acheter des livres de codes d'artistes. Je regardais, on lui confiait un tableau. Tu vois, il y a eu un Van der Meulen, qui est un peintre, je crois, du 17e, présent au musée de Gordon, par exemple. Mmh. Une très grande toile qu'il a amenée à un restaurateur. On avait aussi ses rapports avec des restaurateurs d'œuvres d'art. Donc, ça, c'était passionnant. On a nous-mêmes fait restaurer des œuvres de la collection de mon arrière-grand-père. Une fois, j'ai retrouvé des œuvres dans ma toiture, une toile complètement déchiré. Et donc, je me dis, mais c'est qui, c'est quoi ? Et c'était un tableau donc, de Claudius Denis, qui était un cartonnier pour mon arrière-grand-père, mais qui était peintre, un peintre lyonnais, spécialiste des fleurs, qui a vécu à Paris aussi beaucoup, et qui avait fait des grandes compositions décoratives de vases de fleurs, magnifiques. Et bon, le truc était dans un état abominable, mais on l'a fait restaurer. Et c'est une toile que mes parents ont toujours maintenant. Et j'ai retrouvé des photos de mon arrière-grand-mère posant devant. Donc voilà, il y a toute une histoire de ça. Et j'ai fait aussi un site sur Claudius Denis, puisque j'ai des correspondances avec mon arrière-grand-père, qui sont quasiment illisibles d'ailleurs. Mais c'est
On va donner les prénoms. Donc Louis, c'est l'arrière-grand-père.
Voilà, André, le grand-père. Voilà. Et Jean-Louis, c'était mon père.
Voilà.
C'est
et
mon père.
Donc les époques, c'est début du 20e, milieu du 20e.
Voilà.
Et pratiquement période actuelle.
Voilà, c'est ça. Oui, il s'est arrêté en 2002, je crois. Mon père est à la retraite depuis les années 2000.
Donc, trois générations, je vais dire, d'artisans d'art et d'artistes, quand même, d'une certaine façon, parce que votre. Enfin, en tout cas, votre
arrière-grand-père. Mon père était prof de vitrail artistique aux Beaux-Arts de Grenoble, donc qui, à l'époque, était l'école des arts industriels et du moulage artistique, d'ailleurs. Et il a été directeur de cette école d'art que j'ai moi-même fait par la suite. Donc, c'est assez amusant.
Avec un truc assez drôle, je crois que vous n'habitiez pas loin.
Oui, j'habitais à côté de l'école, sans trop savoir, finalement, cette histoire qui était restée vaguement dans la famille. Mais c'est par la suite, en retrouvant un CV écrit par un expert qui a travaillé sur le fonds Louis Balmet, que j'ai appris des choses sur mon arrière-grand-père que je ne savais pas. Puisque, en fait, cet antiquaire expert avait en gros vidé ma toiture de tout ce que contenait la toiture, y compris les papiers de famille, et on l'a laissé partir avec absolument tout. Et on n'a jamais contrôlé ce qu'il avait pris. Et donc, on découvre petit à petit des choses qui se retrouvent, qui ont été revendues aux enchères après, sur eBay. Donc, nous, on n'a pas touché grand-chose sur cette séparation d'avec des biens, finalement. Et moi, c'est un peu un trauma familial, de voir, finalement, tout un patrimoine historique s'en aller, comme ça, dans des camions, des camionnettes, sans savoir où ça. Mais bon, c'était une partie qui revenait aussi à ma grande-tante, qui avait décidé de s'en séparer. Voilà. Donc,
c'est vrai que les successions, parfois, ont fait du bien, parce qu'il y a des gens qui se sont groupés et entendus autour. Tour effectivement d'une succession d'un artiste connu, moins connu, etc. Puis d'autres fois, effectivement, c'est complètement délayé.
Et oui, alors c'est un mal pour un bien aussi, parce que ces œuvres auraient finalement croupi sous l'humidité, la chaleur d'une toiture grenobloise. C'était des rouleaux, des cartons, des maquettes aquarellées magnifiques, des choses que je retrouve moi-même sur eBay, je vous disais, ou chez des experts,
vous
des antiquaires. Non,
de temps en
temps. Non, j'ai
on viendra parce que vous êtes collectionneur. Hein. Je vous pose la question, c'est intentionnel.
Oui.
Gilles, donc la transmission a quand même déjà sa place dans votre histoire familiale, incontestablement. On ne trouve pas au milieu de tout ça un notaire, un médecin. Il y en a sûrement dans d'autres branches, mais on reste quand même autour.
Oui, j'ai eu des figures en fait marquantes, que soit ma grand-tante aussi. Elle était antiquaire, elle à Versailles, mais elle avait une vie parisienne. C'était un peu la figure qui avait aussi réussi économiquement, peut-être par un bon mariage. Donc il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'une réussite sociale, économique. Et quand elle venait, avec mon grand-oncle, c'était toujours un moment un peu, c'était, je sais pas comment dire, des gens qui avaient peut-être réussi, peut-être un peu mieux que mes parents aussi, et qui, des sortes de modèles, quand ils nous donnaient des conseils. Par exemple, ils étaient extrêmement admiratif en fait dès qu'on allait vers l'art, et donc c'était un moteur pour moi. Ma grand-mère aussi qui a toujours encouragé un respect pour les figures artistiques de la famille, et ma grand-mère Arlette était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était formidable. Et,
donc et vous êtes né dans un milieu porteur quand même.
Oui, on peut dire. Alors, avec des parents pas forcément tournés sur l'art, mais on avait quelques toiles au mur qui étaient en fait l'accumulation des strates de l'histoire familiale. Et donc ça, c'est vrai que ça reste porteur, puisque de voir des choses... Mais par exemple, ils m'ont jamais emmené au musée. C'est moi qui suis allé, oui, par ma propre curiosité, stimulé par ce que j'avais autour de moi, cherchant des réponses aux questions de « mais qu'est-ce que c'est que cet objet ? D'où ça vient ?» Et donc, on va au musée de Grenoble, on découvre la collection, on découvre « tiens, mais il y a une grande tante à nous qui a donné des masques africains au musée de Grenoble. Enfin, d'où ça sort ? Qui était cette tante ?» Voilà, on apprend plein de trucs, voilà.
Gilles est curieux, vous le verrez, vous verrez, vous verrez par la suite dans l'émission que Gilles est quelqu'un d'extrêmement curieux. C'est, ouais, aussi un collectionneur, on en parlera tout à l'heure, je l'ai dit. Ouais. Mais là, je voudrais qu'on revienne sur le fait que vous êtes vous-même dans cette transmission et que vous êtes professeur. Oui. Donc, au Moco Esba, oui, c'est l'école...
Des Beaux-Arts de Montpellier.
Des Beaux-Arts de Montpellier. Et que vous transmettez, donc, effectivement. Oui. Alors, autant avec votre passé, votre nourriture depuis l'enfance, mais aussi par votre métier d'artiste.
Oui. Oui, oui, mais c'est très important, moi, de confronter des jeunes gens à ce qu'est la réalité du milieu de l'art contemporain en France. Alors, vivant à Paris, c'est vrai que je suis exposé aussi aux galeries, aux expos muséales, au Centre Pompidou. Je passe beaucoup de temps là-bas. Tous les grands musées, les grandes expos, les grandes galeries de Paris qui ont... Ça amène... En fait, il y a une offre absolument incroyable à Paris et ça me donne l'occasion de nourrir mes étudiants, d'être confronté moi-même à des choses, des fois très surprenantes. Par exemple, j'ai fait la visite d'un lieu assez étonnant qui s'appelle Push à Paris, à Aubervilliers, qui est d'un coup une accumulation de 260 ateliers d'artistes. Alors bon, c'est des modèles qui questionnent aussi, y compris le modèle des galeries aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent dans le champ de l'art contemporain, étonnant. Il me semble qu'il est de mon devoir d'en informer les étudiants et de voir comment ils réagissent à ça. Qu'est-ce que à Montpellier on va avoir comme point de vue sur ce qui se passe peut-être à Paris. Alors la centralisation, évidemment, c'est quelque chose contre laquelle on lutte un petit peu, et on a des choses merveilleuses à Montpellier aussi, et le MOCO a été une réponse aussi sur la question d'une relative absence de l'art contemporain, même si le musée Fabre a quand même des ouvertures et une collection déjà
déjà, parce qu'en fait elle se constitue,
oui.
ça prend beaucoup de temps pour constituer,
oui,
une collection
sûr.
Sur une voie particulière de l'art pour un musée. Donc, c'est en train de se constituer avec une conservatrice qui a déjà organisé quelques très grandes expos d'art contemporain qui ont rencontré un grand succès. Mais c'est vrai que peut-être à Montpellier, avant le MOCO, il n'y avait presque que
un
ça.
Un petit déficit,
on va dire ça comme ça. Comme il y a un déficit, d'ailleurs, des peintres de la fin du 19e siècle et du début du 20e au musée Fabre. Mais c'est pas forcément la voie qu'ils ont choisie. Ils sont plutôt allés vers l'art contemporain, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Oui.
Cela dit, donc vous avez fait des études d'art.
Voilà, 5 ans aux Beaux-Arts de Grenoble, l'école supérieure d'art, elle s'appelait à l'époque. Et donc j'ai un DNA, diplôme national, DNAP, diplôme national d'art plastique, un diplôme national supérieur d'expression plastique, DNCEP.
Voilà. C'est très beau comme titre.
Oui, oui.
Ça correspond de toute façon à une réalité. Et à partir de là, quand vous avez fini cette formation...
Je suis monté très vite à Paris en 2004. Alors, j'ai fait toutes premières expos à la Nouvelle Galerie, qui était un lieu formidable. 3 jours d'expo, et c'était à l'époque une grande chance de confier à des très jeunes artistes 3 jours. Enfin, en mesure peut-être pas aujourd'hui, mais c'était une galerie qui accueillait vraiment les stars de l'art contemporain à Grenoble, financée par 2 sœurs qui avaient eu, je crois, un héritage familial et qui ont dépensé tout leur argent dans cette galerie, avec des choses mais très très étonnante.
Et grosse opportunité pour un jeune artiste.
Oui. Alors une scène ouverte de 3 jours et de là on fait des photos d'expo. La suite de cette expo, c'est amusant parce qu'un diptyque de mes toiles de la première salle a été acheté par le FMAC, le Fonds Municipal d'Art Contemporain de la Ville de Paris, assez rapidement, qui a été exposé par la suite au Petit Palais. L'œuvre centrale, c'était une expo à deux avec mon compagnon d'aujourd'hui, mais qui était déjà mon compagnon à l'époque, et Benoît Broisa, qui est artiste aussi. Et on avait une œuvre centrale qui était une collaboration, c'était une navigation en 3D voyez à la surface d'une simulation réalisée à partir de mes peintures, mais introduite dans un logiciel 3D et qui s'appelle 1950DA, puisqu'elle simulait cet astéroïde qui menaçait de s'écraser sur la Terre à l'époque. Et la troisième œuvre, c'était une œuvre de mon compagnon Benoît Broisa qui s'appelle Bonne Ville et qui a eu un parcours étonnant parce qu'elle a été achetée très vite aussi par le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, par Anne-Sulerie Chaubriste à l'époque, dirigée par Suzanne Paget. Et cette œuvre, elle a circulé dans le monde entier, y compris dans l'A320 ou A380, je crois, dans les collections du Musée d'Art Moderne, mais en Chine, dans tous les grands musées, parce que le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris à l'époque, puisqu'il s'appelle maintenant Musée d'Art Moderne Paris, diffuse très bien sa collection aussi. Et les vidéos, ils ont fait des expos importantes à partir de cette collection.
Vous savez pas, Gilles, le premier quart d'heure est déjà passé.
Ah, oui.
On fait une pause et on se retrouve et Yann continuera à assurer la technique de cette émission. Et là, tout à l'heure, nous allons parler effectivement de cet aspect artistique, enfin de tout ce qui relève de l'artistique chez vous, de votre création et de vos modes d'inspiration. À tout de suite.
I miss you, friend. You are dead and oh so far away. While I'm here stranded among the living, like so many rotten teeth. I don't like this place.
Gilles Balmé est notre invité aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont écouté le début de cette émission, ils ont déjà découvert qu'il était artiste, qu'il venait d'une famille d'artisans d'art et d'artistes, d'une certaine façon. Hein, l'arrière-grand-père, en tout cas. Oui. Voilà. Puis le grand-père, le père. Qu'il avait donc trois maisons, on plaisantait avec ça au début, mais aussi trois ateliers, ce qui est quand même, pour un artiste, quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'il vivait avec un artiste. Oui. Et donc, j'allais dire, en fait, vous vivez art.
Oui,
art en permanence.
Des fois un peu trop, mais on aurait envie d'échapper. Mais non, mais c'est une passion.
Vous allez avoir du mal. Hein.
C'est une passion quand même. Donc oui, c'est vrai qu'on parle non-stop de ça, quoi. Oui.
Donc on a vu que vous aviez fait une formation, hein, quand même très solide. Et il y a un voyage qui vous marque beaucoup. Que vous faites d'ailleurs, je crois, avec votre compagnon.
Oui, alors
vous partez au Japon.
Absolument, et c'est lui qui a eu la chance. Alors, c'est marrant, ça fait la transition aussi avec l'enseignement, parce que Ange Leccia, qui était un de mes profs, avait fait cette résidence qui s'appelle la Villa Kujoyama à Kyoto. Et justement, mon compagnon racontait souvent que c'est par Ange Leccia, par cette idée, que ça lui a mis l'idée en tête d'aller au Japon. Et donc, il a finalement tenté cette résidence, et un jour, il l'a obtenue. Et donc, étant ensemble, moi je l'ai accompagné, et ils ont dû se dire, deux artistes pour le prix d'un, c'est plutôt pas mal. Et ce qui fait que là-bas, lui il est resté, on est resté tous les deux 6 mois, on a eu la chance d'avoir un directeur aussi très compréhensif, qui nous a fait 2 visas culture, qui nous a permis de rester 6 mois tous les deux là-bas. Jean-Paul Olivier à l'époque, qui était quelqu'un de très bien, et ça a été vraiment un moment de découverte de la culture japonaise, de Kyoto, des jardins, des temples, de la société, de la population. Alors on a croisé beaucoup d'artistes, des artistes aussi formés en Occident parfois, qui revenaient au Japon, qui avaient des points de vue aussi éclairés, j'ai envie de dire aussi, sur les divergences culturelles. Donc ça, c'était des discussions passionnantes.
Oui, parce que l'art, c'est quand même aussi quelque chose, c'est pas quelque chose qui est hors de la société, hors de la culture. Ça fait partie de la société ou de la culture, je veux dire sociétale. Enfin, c'est ça que je voulais.
Ah oui, c'est un témoin, c'est aussi une éponge, quoi. Là,
c'est ça, les époques, les lieux jouent. Enfin, tout rentre en ligne de compte. Donc là, vous arrivez au Japon, vous découvrez le Japon un peu dans tout un tas d'aspects, et plus particulièrement effectivement artistique, puisque c'est l'objet du voyage à l'origine. Et donc.
Alors moi, j'avais le droit de rien faire, hein. Mais sauf que j'ai énormément travaillé là-bas étant donné que j'étais pas résident officiel. Je pouvais faire ce que je voulais. Simplement, mon métier, c'est de travailler. Donc, moi, j'ai produit vraiment des quantités d'œuvres. J'ai ramené 3 ou 4 valises d'œuvres sur papier que j'ai produites sur place. Alors, j'avais un petit mur dans le studio de la villa que mon compagnon me laissait. Je pouvais travailler. Et là-bas, j'ai fait une exposition à l'Institut franco-japonais du Kansai, donc à Kyoto. Et voilà, donc ça a été 6 mois vraiment de bonheur.
Mais il y a une influence dans ce qu'on voit de vous. Enfin, dans certaines œuvres, il y a quand même une grande influence de...
Il y a une série qui est née là-bas, qui est un peu iconique de mon travail, qui s'appelle les Silver Mountains. En fait, j'ai travaillé déjà sur une série qui s'appelait les Ink Mountains, qui a été montrée au musée de Sérignan en 2010, au retour du Japon d'ailleurs, et 2011 pardon. Et parce que le séjour c'était 2010. Et j'ai fait basculer une série en noir et blanc à partir d'un travail en numérique sur Photoshop tout simplement, en mettant en négatif quelque chose de noir et blanc. Ça a inversé les tonalités, et j'ai obtenu quelque chose qui relevait plutôt de l'ordre de l'argenté sur noir. Et j'ai essayé de traduire ça avec, à ce moment-là, au Japon, je tombe sur des chutes de papier noir sous les escaliers de cette villa Kujoyama, qui est un endroit merveilleux d'architecture de béton, un peu à la Tadao Ando. Lorsque l'architecte, c'est Kumio Kato, et c'est une architecture remarquable. Et je tombe sur ce papier noir, et donc je tombe aussi sur des bombes argentées, et ça me permet d'un coup de créer ces images qui sont de l'ordre du paysage à partir d'une abstraction de matière qui est contenue dans des piscines en flottaison, et je vais en fait récupérer par mes gestes la matière et créer en fait entre l'aléatoire de la circulation de la matière et le conditionnement de mes gestes, donc c'est cette tension qui va générer une image qui est de l'ordre du paysage.
On va en parler un peu plus profondément dans la troisième partie de cette émission, mais c'est vrai que je faisais le rapprochement avec certaines œuvres japonaises dans cette espèce de très grande sensibilité. On voit ce qui n'est pas dit. Souvent, il y a des flous.
Il y a une finesse de matière.
Tout à fait, un raffinement.
Oui.
Une espèce de légèreté, même sur des choses qui sont sombres.
Oui.
Des contrastes, mais qui sont toujours très doux, qui sont très bien amenés. Et puis, aussi cette profondeur de champ.
Oui.
Et on n'a pas l'impression qu'avec la technique de création que vous avez, vous pourriez produire ce genre de choses, et pourtant, c'est le cas.
Mais je cherche à m'émerveiller moi-même. Quand je travaille, en fait, il y a souvent des surprises. Alors, par la multiplication des tentatives, des essais, le côté expérimental d'un atelier, trois ateliers, c'est aussi pour ça. C'est qu'on change d'hygrométrie, de conditions de travail, de lumière, les papiers réagissent pas pareil, les bains réagissent pas pareil. Et donc, comme je travaille dans des espèces de grandes cuves d'eau, c'est assez étonnant. Les temps de séchage aussi interagissent différemment et produisent des choses qui, entre mes gestes et la matière, il y a une sorte des paramètres en fait physico-chimiques
que vous ne maîtrisez pas.
Alors, plus ou moins, on pourrait dire certains. Alors, l'aléatoire de la circulation des matières, il est quand même conditionné par les gestes, les basculements, la vague de matière que je vais nourrir. Plus ou moins, je vais varier des paramètres de densité de la matière, des paramètres, par exemple, comme j'utilise beaucoup de bombes de peinture, il y a différents types de valves, il y a différents types de pressions, il y a l'orientation d'un flux de peinture, il y a tout un tas en fait de paramètres qu'on ne perçoit peut-être pas, mais qui sont bien là et qui sont des paramètres de peinture et de dessin et de composition d'une image et d'équilibre des masses dans une œuvre et il y a quantité de choses en fait qui relèvent du dessin et de choses tout à fait traditionnelles dans l'art.
Traditionnelles, mais encore une fois avec une part de mystère. Enfin,
c'est
on est dans les coulisses de la création. J'aurais voulu qu'on en parle un peu plus tard, mais on en parle maintenant parce que là, je sens bien que vous êtes en train de bien nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui. C'est-à-dire ce que vous gérez au travers, effectivement, du trempage, des temps, des encres que vous utilisez, du geste, ce fameux geste qui est important aussi chez les Japonais, par exemple.
Il y a une dimension presque rituelle. Alors, moi, je sais que je suis un artiste occidental. Je ne cherche pas à singer l'Asie. On appelle ça des artistes un peu tatami. En se moquant un petit peu. Hein. Donc voilà.
De tatami. Hein,
voilà,
tatami.
Voilà. Exactement. Et je connais en fait le. Comment dire ? Je ne cherche pas à faire japonais ou à faire asiatique. Voilà. Et au contraire, si. Enfin, moi, je viens plutôt peut-être de l'expressionnisme abstrait ou d'un goût pour la peinture américaine que j'ai vu, y compris au musée, chez des gens comme Maurice Louis.
N'attaquez pas encore les collections, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Là, la façon dont vous faites.
Oui.
Donc, effectivement, vous avez obligatoirement des influences ou des choses qui vous ont plu, que vous aimez retrouver peut-être dans votre travail. Mais il y a quelque chose qui m'avait frappé quand on avait préparé l'émission. Vous m'aviez parlé du rythme et de la musicalité.
Oui, alors.
Et ça se ressent, ça, dans ce que vous faites.
C'est cohérent avec les notions de dessin, l'harmonie d'une ligne, la virtuosité d'une ligne. Et quand on travaille sur une ligne de flottaison ou sur une vague de matière, on la conditionne d'une certaine façon. La sensualité d'un geste va générer, ou la façon dont un papier va pénétrer dans une ligne de flottaison de matière.
Et dont la matière va pénétrer dans le papier.
Absolument. Et la rythmique, simplement trembler ses gestes comme un musicien, un violoncelliste pourrait le faire sur son archet et son violoncelle. On est souvent dans la musique qui va une transcription en fait. Il y a une sorte d'inscription comme un peu un sismographe qui enregistrerait les vibrations de ce que je peux faire subir finalement au support ou à la matière.
Alors, assez différente des séries que vous aviez faites, vous nous avez parlé de Silver Mountains, nous avez parlé d'autres séries que vous avez créées. Il y a le travail que vous avez fait sur cet effet miroir quand on...
Oui, alors les Rorschachs, une série Untitled Rorschach que j'ai commencé vers 2004, que j'ai montré après dans des expos. Ma première grosse expo personnelle à l'École supérieure d'art d'Amiens, qui montrait à la fois tout un ensemble de toiles de cette série. C'est donc une sorte de grande toile blanche qui est prépliée en éventail, que je plie manuellement moi-même. Alors c'est assez laborieux, c'est assez pénible à faire, mais bon, il faut bien s'y coller des fois. Et ensuite, j'ai réalisé une sorte de dripping à la Jackson Pollock.
Alors, c'est quoi dripping?
Le dripping, c'est simplement prendre un bâton ou un pinceau un peu usagé, le tremper dans un pot de peinture qui va être souvent de la peinture industrielle, de la laque, quelque chose d'un peu brillant, de la peinture glycérophtalique, et je vais la projeter en fait à distance en étant autour de la toile ou parfois dessus, je peux marcher dessus, mais quand elle est prépliée, je ne vaux mieux pas. Et donc la projeter, et dans une idée, je réalise une sorte de all-over de coulure, plus ou moins dessiné, plus ou moins accompagné par mes gestes. Donc, il y a des éléments là aussi de composition. Ce n'est pas un aléatoire total, on va dire. Ce n'est pas du Pollock du tout. Hein. Et ensuite, c'est replié. Donc, je vais replier tout l'éventail de toile. Ça va permettre à la peinture qui est encore humide de finalement se transférer de chaque côté de l'éventail. Et ça va créer des sortes de figures totémiques qui ressemble à des motifs de l'ordre du Rorschach, en fait, du test de psychodiagnostic avec les taches d'encre pliées. Mais cette
fois, on va raconter peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas. Hein. Oui. Rorschach avait mis au point un système qui faisait qu'on pliait en miroir.
Voilà.
Donc des taches. Et ces taches, ces feuilles, une fois dépliées, étaient présentées à des patients qui devaient dire ce qu'ils voyaient là-dedans. Évidemment, chacun voyait des choses extrêmement différentes. C'est un peu comme quand on regarde le ciel. Ah, t'as vu la tête de loup? Et je trouve que ça ressemble plutôt à ça. Bon, là, c'était deux. Voilà. Et donc, le patient, en fonction des réponses qu'il donnait, orientait le psychanalyste vers, ou le psychologue, mais le psychanalyste vers des interprétations ou une découverte de la personnalité de ce patient. Mmh. Et donc, vous avez travaillé sur ce système, effectivement, là, non pas pour un patient ou avec un patient, mais pour créer une œuvre.
Voilà, qui a une composante graphique, une dimension esthétique assez fascinante. Moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est créer des sortes de. Presque des pièges à regard, hein, mais sur des structures qui vont en fait être très stimulantes pour l'œil. Et on va se balader en fait sur la surface de la toile. Alors, par où on commence? Ça, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on va saisir de ces éléments qui peuvent ressembler parfois à des insectes, parfois à des choses humaines, anthropomorphes? On va projeter des lectures de visage. Alors, des fois, on va avoir des petits animaux, des petites créatures complètement même idiotes.
Mais chacun
parfois
peut avoir son interprétation,
des
en
choses,
fait.
Ah oui, absolument. Et donc, de là, ben, il y a une jubilation esthétique que perd, en fait. C'est assez. Moi, je suis le premier, des fois, à être. Comment dire? À prendre du plaisir, en tout cas, à regarder mes œuvres et à me dire, tiens, ben, là, ça marche moins, et ça,
justement,
ça en fait des critères.
Vous me faites une transition parfaite, parce que je me dis, mais comment parce que vous avez produit mais des milliers d'œuvres.
Alors, oui.
Des milliers, hein, depuis.
Oui, alors après, elles ne circulent pas toutes, heureusement.
Non.
Voilà.
Comment faire vos choix?
Bien,
comment vous laissez certaines d'entre elles partir pour
une
expo?
Ça reste assez subjectif.
Proposer à la vente.
Il y a une forme de subjectivité et d'objectivité. C'est assez curieux. Il y a des évidences, en fait. Il y a des œuvres qui sont de l'ordre de bah, tiens, là, il y a un équilibre parfait, une harmonie, quelque chose. C'est assez indescriptible, hein, mais il y a une forme, je pense, vraiment d'objectivité. Quand on a une sorte de bouteille, j'ai envie d'avoir vu des milliers d'œuvres dans les musées, dans les galeries, de connaître différents types de formes, on peut dire, tiens, ben, ça, c'est mieux dessiné, ça, c'est mieux composé, cette ligne, elle est mieux qu'une autre. Ce type d'expressivité, ben, elle va être plus naturelle, pas molle, pas singée, pas artificielle. Voilà, il y a tout un tas de critères. Après, il peut y avoir, par exemple, sur les Rorschach, une dimension même un peu plastifié. C'est comme si cette expressivité, elle était quand même un petit peu contenue par la matière qui va presque la polir, la rendre un peu plus plastique. Donc ça, c'était aussi une volonté de ma part hein, dans ces œuvres en peinture. C'est aussi ce qui leur donne une dimension plus contemporaine, peut-être moins années 50, on pourrait penser, sur des questions d'abstraction. Hein. Voilà, donc
y a... Est-ce qu'on peut dire que Gilles Balmé est reconnaissable? Est-ce qu'il y a,
qu'il
y a un style,
si
je puis dire, enfin un style?
C'est amusant parce que c'était la question. Il y avait une table ronde au Beaux-Arts de Paris récemment, organisée par Thomas Lévillane, sur la scène parisienne française, et la notion du style était abordée. Et c'est vrai qu'il y avait des réponses très diverses en fonction des artistes peintres qui étaient là. Et c'était. En tout cas, sur certaines de mes séries, on reconnaît tout à fait.
Dit c'est du Gilles Balmé.
C'est possible, oui, en fonction des séries. Enfin, moi, j'essaie d'inventer des choses qui ont une dimension reconnaissable. Après, on n'est pas dans le graphisme non plus. On ne cherche pas forcément l'efficacité graphique d'un graphisme, mais c'est une qualité
mais en même
dans
temps,
un
c'est
travail.
Très graphique. Ce
ah fait. Oui, et c'est très graphique et pleinement assumé comme tel. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, il y a des.
Oui, vous n'en avez pas honte.
Non, pas du tout.
Au contraire.
Oui.
Donc, ça, toutes ces œuvres, donc il y en a beaucoup chez vous, il y en a beaucoup exposées, beaucoup qui sont dans des musées.
Et des collections d'artistes aussi, puisque j'ai beaucoup échangé.
Donc, on va en parler.
Une circulation de l'œuvre.
Mais en revanche, est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées pour vous en vous disant là, l'aléatoire, le geste, la musicalité, le sentiment, l'impression en la contextualisant, tout est là, ça je ne peux pas le laisser partir.
C'est le dilemme toujours des artistes, je crois, d'accepter l'idée de se séparer d'une œuvre qu'on considère comme pourtant majeure, réussie, aboutie. Alors, j'ai tendance à des fois garder peut-être les œuvres des affiches ou des cartons d'expo, alors que c'est celle que les collectionneurs aimeraient en général. Mais voilà, j'ai des fois un peu de mal à me séparer de ça. Par exemple, l'affiche du pavillon carré de Baudouin, je sais que plusieurs personnes la voulaient, l'œuvre, et je me suis dit, mais non, je la veux, moi je la garde, elle a été affichée 6 mois en plein Paris, rue des Pyrénées, en 4 mètres par 3 reproduit, elle a une histoire pour moi, quoi, cette œuvre, c'est une petite chose de 50 par 70 cm, mais j'ai pas pu m'en séparer, quoi.
Alors, vous l'avez compris, Gilles Balmé, je vais dire une pointure hein, de l'art contemporain aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça dans cette émission. Hein. C'est parce que là, vous rentrez vraiment dans ce que peut être le métier, la vie et l'intérieur d'un artiste qui est partagé et reconnu. On le retrouve après. Justement, on va parler de ça et de la façon dont on crée dans un contexte, bien sûr, mais aussi dans un environnement artistique. Et ça me paraît assez important puisque c'est aussi une des parties importantes de votre vie, en particulier les collections, puisqu'on n'en a pas encore parlé. À tout de suite.
Have a song to sing, you're okay. You know how to get along humming. If you don't have a date, celebrate. Go out and sit on the lawn and do nothing. Just what you must do, and nobody does it anymore. No, I don't believe in the wasting of time. But I don't believe that I'm wasting mine. Have a point to make, don't sweat it. You make a sharp one being so kind, and I'd sure appreciate it. Everyone else's goals to get big-headed. Why should I follow that beeping that I'm better than fine?
Gilles Balmé est toujours avec nous, il est artiste, peintre, il est professeur à l'École des Beaux-Arts de Montpellier, il est collectionneur, et je disais tout à l'heure qu'il vivait art, mais je crois que c'est vrai, il nous l'a bien démontré en nous expliquant comment il parvenait à créer. Alors Gilles, vous avez produit des milliers d'œuvres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous en avez gardé certaines pour vous, en particulier celles qui figurent sur les cartons.
Oui.
Mais moi, je voulais...
Pas toujours.
Certaines fois, enfin, assez souvent.
De plus en plus, je dois dire. Tu peux de mal à me séparer de certaines.
J'avais envie, moi, de faire un lien avec, avec le, ce que vous nous avez dit au début, donc de cet arrière-grand-père qui était un artisan...
Maître Verrier.
Voilà, Maître Verrier. Il y a quand même un rapprochement avec le vitrail, parce que moi, je connais un de vos ateliers. Hein, je suis allée à Montpellier, c'est une cave dans les vieux quartiers de Montpellier. Il n'y a pas de lumière, véritablement, c'est de la lumière artificielle. Et votre travail consiste quand même, comme vous nous l'avez expliqué, à faire des trempages, à injecter des encres,
des peintures,
avoir une certaine gestuelle pour provoquer des effets sur le papier, que vous faites pendre comme quand j'étends mon linge. Voilà. Et quand vous dépendez, dépendez de l'aléatoire, mais vous dépendez aussi véritablement le geste de dépendre l'œuvre et que vous montez à l'étage à la lumière. Il y a des fois, c'est comme le vitrail, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues en bas et que vous voyez.
Absolument.
Finalement.
Ah oui, il y a des surprises, il y a des. Bah, quand je travaille sur la couleur, évidemment, j'ai une lumière un peu plus jaune en bas. Quand je les remonte, elles vont s'éclaircir. Alors, c'est aussi une façon de travailler différemment, c'est-à-dire d'anticiper peut-être un petit peu le blanchiment à la lumière naturelle qui va s'obtenir. Donc, travailler peut-être sur des couleurs plus intenses en bas.
L'anticiper en bas.
Voilà, alors, c'est une cave médiévale que j'ai eu la chance d'avoir avec ce petit appartement en rez-de-chaussée. Et c'est pas loin de la panacée. Et c'est vrai que c'est quelque chose du moco panacée. Et ça a été une chance merveilleuse de pouvoir d'un coup avoir ce petit bonus d'avoir un atelier à Montpellier. Et c'est une cave, mais je l'aime beaucoup.
Disiez tout à l'heure, je vais à la mine.
Oui, c'est pareil, je descends. J'ai pu reconstruire un escalier. Enfin, tout était dans un état affreux. Hein. On ne le faisait même pas visiter, hein, pour vous dire, quand j'ai eu cet appartement. Et simplement, je me suis tout de suite dit, mais quel potentiel incroyable. Il y a 4 mètres de hauteur, il y a une plateforme, il
n'y
a pas de lumière. Mais moi, à Grenoble, pareil, j'ai deux petits fenêtres minuscules dans ma toiture. Et ça ne m'a jamais gêné pour autant. Alors, quand on travaille sur du bleu de Prusse, le bleu de Prusse, il ne va pas changer. Hein. Donc, peu importe. Et les dégradés vont s'obtenir. Moi, je n'ai pas de retouche sur mes œuvres, par exemple. Donc,
il n'y a pas de possibilité de retouche.
Alors, quelqu'un pourrait superposer. Voilà, alors, ça dépend des process. Mais quand je travaille, en général, j'aime travailler d'une seule fois, d'une seule geste, en une seule étape, sauf certaines séries où il y a deux étapes. Mais il n'y a pas de repentir dans mon travail. Donc, ça, c'est aussi le défi. En fait, le défi technique dans un travail, pour moi, c'est de me dire, tiens, est-ce que l'œuvre, elle est réussie ou pas en une fois? Et là, c'est la petite pression et la petite tension. Et c'est pour ça que je produis beaucoup pour essayer d'extraire le meilleur de ce qui est produit. Et il y a des œuvres qui sont dans des tensions, dans une phase d'indétermination sur sont-elles bonnes, pas bonnes, radicalement nouvelles, radicalement bizarres, étranges, sur des critères qui sont, là encore, assez subjectifs, mais avec une forme de d'objectivité, je dirais, de ça, c'est mieux que ça. Voilà.
Mais on le disait aussi, votre compagnon est lui-même artiste.
Oui.
Et je pense que vous devez discuter ensemble et de son travail et du vôtre. Et que peut-être, lui, il a un regard que vous n'avez pas sur des choses que vous avez produites.
Probablement, oui, oui.
Il vous dit, mais si, ça, c'est bien, ou ça, je doute un peu plus.
On a tous les deux pratiques quand même très séparées. Lui est plus dans des pratiques conceptuelles liées à des protocoles de travail, peut-être des fois sur des temporalités beaucoup plus longues que les miennes aussi. Il a un projet qui travaille sur la reconstitution d'une place complète depuis plus de 20 ans. Hein, donc d'après les témoignages des habitants, sans jamais avoir vu cette place en images numériques. Donc ça, c'est le projet Place Franz Liszt. Donc la question de la mémoire est très présente dans son travail. Moi, je suis plus dans des choses de l'ordre qui relèvent vraiment clairement de l'ordre de la peinture, de la picturalité, de travail processuel, dans une volonté le terme processus était très employé, le terme de protocole aussi dans mon école était très employé. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu critiqué.
Mais j'ai rituel parce que je fais allusion au Japon. Oui. Et vous avez peut-être associé le rituel.
Oui, alors après, il y a des artistes, c'est marrant. J'ai eu une commande une fois de Marie-Ange Guilleminot, qui est très liée au Japon aussi, sur des questions de rituel. Et des créations de protocoles presque d'ordre de la cérémonie.
C'est ça.
Passionné.
Pensez à la cérémonie du thé.
J'en parlais à une étudiante hier.
Nous, on est plutôt dans la cérémonie du petit dessert agréable quand on se voit, en dehors de la radio, mais là, c'est la cérémonie du thé.
Oui. Et le Japon, oui, ça a été évidemment une incidence majeure, y compris sur les... enfin les antiquités japonaises, la peinture japonaise traditionnelle, moi, m'a beaucoup nourri. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de catalogues. J'ai eu la chance de tomber sur des catalogues d'une maison de vente aux enchères à Kyoto. Voilà, il se trouve d'ailleurs, c'est un ami photographe qui faisait les photos de ce catalogue. Enfin, c'est des hasards incroyables. Hein.
Voilà. Donc, l'accompagnement dans votre vie privée par un artiste n'est pas forcément déterminante.
Ah oui,
on en était là, oui.
Comment dire, on
discute. Est-ce que son regard est important? Est-ce que quand il vous dit ça,
on a chacun une œuvre très séparée.
Oui, je comprends bien. Mais...
un ego aussi, probablement, qui fait qu'on a notre autonomie de travail et décisionnelle. Alors, moi, je peux demander conseil. Tiens, tu préfères celle-ci. Si jamais je vais faire une sélection, peut-être. Et j'ai eu quelquefois des retours. Oui, et j'ai tout à fait confiance en son expertise. Donc, ça, c'est, voilà, on a une pleine confiance l'un sur l'autre. Et je travaille aussi de temps en temps à regarder ce qu'il fait, évidemment. Et on se questionne mutuellement de temps en temps. Mais on est très, très autonome avec des travaux très, très différents.
Le propre de l'artiste, c'est souvent d'avancer dans son travail, d'avancer dans son œuvre, d'avancer dans un sorte de fil conducteur de vie intérieure, j'allais dire. Mais on est quand même aussi bousculé souvent, et puis on l'a vu, hein, parce que depuis tout temps, par ce qui se passe à l'extérieur. On peut pas ne vivre que dans son atelier, ne jamais écouter d'informations, ne jamais regarder. Maintenant, effectivement, ça n'existait pas il y a 150 ans, mais on ne peut pas ne pas regarder la télé de temps en temps, ne pas voir de films, ne pas voir des documentaires. Qui bouscule.
Et oui, non, mais moi je m'informe beaucoup. Enfin, je lis plusieurs quotidiens, j'achète beaucoup d'hebdomadaires. Je regarde aussi la télévision, des fois des chaînes d'information, des débats politiques. J'aime confronter en fait les points de vue, avoir des points de vue divergents sur les informations. Voilà, donc c'est des passions aussi.
Mais ça joue
ça
dans
ne
votre
nourrit
travail ?
Pas forcément. Ben justement, c'est peut-être la façon de l'évacuer. Oui. Ça a pu jouer à un moment. Dans les premières vidéos notamment, où la question des conditions de travail, y compris ouvrières, a été abordée, les questions de l'homosexualité. Moi, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le coming out en 2000, avec le vrai enregistrement de mon propre coming out, qui était remis en scène, avec une séquence de danse que j'avais improvisée dans ma chambre à l'époque. Une vidéo très étonnante qui a circulé dans le milieu de l'art au magasin de Grenoble. Je l'avais montrée en 2000, justement. Peut-être qu'on règle quelques questions. Après, les grandes questions écologiques, peut-être, sont présentes d'une certaine façon dans mes paysages. Est-ce que ça infuse un travail? La question de la disparition de l'humanité, il n'y a pas de présence humaine dans mon travail.
C'est vrai.
Est-ce qu'on est dans quelque chose de post-apocalyptique, d'une nature qui aurait repris toute
Mais
puissance?
C'est vrai, on peut revoir, effectivement, on peut voir des vagues, on peut voir des paysages lointains, on peut voir des arbres.
Ça peut être pris comme
dans votre studio de Montpellier.
Il y a des processus naturels. Il y a cette question de la temporalité longue. Elle est paradoxalement présente avec des œuvres réalisées en des temps extrêmement courts. Or, on a l'impression de paysages qui ont sédimenté sur des milliers d'années. Donc, c'est aussi des rapports de temporalité un peu paradoxaux.
Intéressant parce qu'il y a des gens qui suivent votre travail. Je pense à la Galerie Alma, qui suit votre travail depuis longtemps. Et qui donc vous accompagne dans ces espèces de d'ondulations et de recherches et de sujets et puis dans votre évolution dans l'âge
vient. On a montré à Marseille à la foire Paris Idoli, une très bonne foire de dessin contemporain international d'ailleurs, avec la Galerie Alma, un ensemble de Ink Mountains, donc qui était ma première série, peut-être la plus connue. Donc c'était intéressant un peu presque de repartir à zéro pour une première collaboration en foire avec une toute première série. Et c'est vrai que Marie-Caroline Allermat est quelqu'un qui a un regard aussi assez expert sur la peinture et le dessin. Et donc on a fait une sélection ensemble d'œuvres. J'ai eu des moments délicieux dans cette foire avec notamment Gérard Tracandi. Donc c'est pas toujours qu'on a Tracandi devant son travail, qu'on peut discuter avec lui et qu'il était plutôt très positif. Donc c'était des moments très sympathiques.
Est-ce que tu es très respectueux quand même de certains de vos aînés?
J'ai beaucoup d'admiration.
Il y a une forme chez vous de modestie, alors que vous pouvez représenter pour certains de vos étudiants une sorte de modèle, enfin d'artiste, toujours vivant, produisant encore, enseignant,
oui,
etc.
Alors...
Et il y a la même chose pour vous par rapport à des aînés.
Oui, moi j'ai toujours... j'ai pas eu de problème de confrontation de génération. On en parlait tout à l'heure, je me disais, mais il faut faire confiance à nos aînés, qui sont là aussi pour nous transmettre des choses, nous enseigner. Moi j'ai eu un rapport à la transmission par les livres. aussi, par la bibliothèque municipale de Grenoble, par vraiment les bibliothèques du musée de Grenoble aussi. J'ai passé beaucoup de temps à farfouiller dans les livres, à acheter des livres chez les libraires, les bouquinistes. C'est comme ça qu'on apprend, hein, qu'on forme son œil, qu'on se confronte à la surprise, la sérendipité, comme on dit, de la rencontre avec un livre. Ah, c'est merveilleux, quoi.
Et la rencontre avec d'autres artistes, parce que oui. Je ne sais pas si c'est très fréquent, parce que je crois que les galeristes n'aiment pas trop ça quand les artistes échangent leurs œuvres. Je te donne une œuvre, tu me donnes une œuvre.
Ils ont
peut-être le sentiment d'être un peu court-circuités.
Oui, alors après, si on a, moi, je n'ai personnellement pas l'argent, ou je m'autorise quelques micro-achats, mais dans des ventes caritatives.
Enfin, je dois dire, je pense qu'il faut le préciser, 3 maisons et 3 ateliers. Oui, ça. Même si ça, dans de bonnes conditions, effectivement, ça a un coût.
Et oui, bien sûr. Donc oui, les coûts de fonctionnement des ateliers d'artistes, c'est aussi ça qu'on ne mesure pas toujours. Et donc même si moi j'ai un salaire de professeur, et même en vendant des œuvres, ça reste une économie assez précaire. Hein. Donc vendre des œuvres est nécessaire. Et donc malheureusement, je n'ai pas le budget pour en acheter. Mais de temps en temps, je m'autorise quelques petites folies. Et pour ça que ma collection est principalement basée sur l'échange entre artistes. Donc mon travail a une valeur artistique, mais il a aussi une valeur financière. Et donc c'est ma monnaie d'échange pour des échanges entre artistes. Certains acceptent volontiers.
Vous avez une collection telle qu'un livre a été fait sur cette collection.
J'ai fait une première édition chez Phage, qui est un très bon éditeur d'art et d'histoire de l'art de Lyon, qui a publié mon premier catalogue en 2014 pour une double exposition qui avait eu lieu à Grenoble, à l'École d'art de Grenoble et au Centre d'art Le Vogue. Il y avait 115 œuvres à l'époque, je crois, montrées. Après, j'en ai fait une deuxième à Paris en 2021, au pavillon carré de Baudouin, qui est un très beau lieu du 20e, qui est l'ancienne maison de campagne des Goncourt. Et donc, c'est un lieu dédié à l'art aujourd'hui sur 400 mètres carrés. Et donc, j'avais fait une exposition personnelle au rez-de-chaussée et une exposition de la collection avec une séparation nette entre les œuvres qui ont été achetées et les œuvres qui ont été échangées, de façon à ce qu'il y ait une forme de lisibilité de mon projet, qui n'est pas un projet d'artiste, hein, mais qui est un projet réel de collection, monté, mais avec mon expertise d'artiste. Et donc, ce sont des œuvres, voilà, il y a aujourd'hui plus de 400 œuvres. Des fois, il y a 3 œuvres par artiste, des fois, il n'y en a qu'une, des fois, il y en a 5. Voilà. C'est très varié en fonction de la rencontre. Moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est proposer un artiste, il ou elle accepte ou pas l'idée de qu'on se voit dans un café avec un carton à dessin, qu'on se voit dans l'atelier, qu'il ou elle vienne chez moi ou l'inverse. Et à ce moment-là, on discute, on dit tiens, qu'est-ce que tu me proposes? Je te propose ça. Je montre toujours en général d'abord, moi, ce que j'ai à proposer. Et la personne me dit, moi, j'ai plutôt ça, ou ça peut se faire par Internet. Sur Instagram, Facebook, on peut s'envoyer des images.
Je trouve ça.
Ça peut être sur sélection. Je peux te proposer ça. Et puis voilà, la personne me dit, moi j'ai plutôt ça. Et on choisit. Et c'est Noël tous les jours. Moi j'adore cette idée de générer en fait quelque chose qui provoque
Et on revient à l'échange, partage et à l'échange. Oui. Donc, ils sont des valeurs qui ont un petit peu disparu de notre société à l'heure actuelle. Et c'est valable effectivement dans ce peuple d'artistes qui l'ont toujours fait et qui le feront encore longtemps, j'espère.
Tous les artistes ne jouent pas le jeu, hein. C'est aussi ça. Ils ont la liberté. Voilà, certains n'aiment peut-être pas du tout mon travail, je le comprends. Certains ne sont pas collectionneurs aussi, ça c'est très intéressant. Oui. Les refus sont aussi intéressants des fois que les acceptations.
On peut c'est avoir comme les silences valent parfois beaucoup de paroles. Mais on va faire silence, figurez-vous, mon pauvre Gilles, parce que c'est terminé.
Voilà.
En revenant de l'expo est terminé. En tout cas, je vous remercie 1000 fois d'être venu. C'était un bon moment, une bonne expérience, parce que là, on est vraiment rentré dans le cœur de la création. Je vais dire merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Merci à Yann qui a assuré la technique. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. On peut se retrouver donc en rediffusion dimanche, donc nous sommes vendredi, dimanche à 20h, et puis sur le podcast en allant sur le site de la radio et en allant dans Rechercher. Et là, vous allez voir, c'est parce qu'il y a un onglet podcast, moi j'ai essayé, ça marche pas très bien, mais si vous allez dans Rechercher, vous avez toutes les émissions, vous pouvez toutes les réécouter. Et évidemment, En revenant de l'expo fait partie de cette liste. Je vous souhaite donc encore une fois un bon week-end, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
As praias desertas continuam esperando por nós dois. A este encontro eu não devo faltar. Continuam esperando.